Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Il est des romans que vous lisez à l'adolescence et qui vous marquent d'une empreinte forte, tellement forte que lorsque vous les relisez à l'âge adulte, vous y retrouvez la même puissance. Le roman que j'ai choisi d'évoquer pour vous avec ce 10e podcast fait partie de ces œuvres pour moi. Il s'agit du roman de John Steinbeck, Des souris et des hommes.
I thank the Swedish Academy for finding my work worthy of this highest honor. In my heart there may be some doubt that I deserve the Nobel Award over other men of letters whom I hold in respect and reverence.
C'est donc John Steinbeck que nous venons d'entendre dans ce court extrait alors qu'il vient de recevoir le prix Nobel de littérature en 1962 pour l'ensemble de son œuvre, plus précisément pour ses écrits réalistes et imaginatifs, alliant à la fois un humour sympathique et une perception sociale aiguë. Mais sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début du roman « Des souris et des hommes ». À quelques milles au sud de Soledad, la Salinas descend tout contre le flanc de la colline et coule, profonde et verte. L'eau est tiède aussi, car avant d'aller dormir en un bassin étroit, elle a glissé, miroitant au soleil, sur les sables jaunes. D'un côté de la rivière, les versants dorés de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts Gavilán. Mais du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres, des saules, d'un vert jeune quand arrive le printemps, et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crues de l'hiver. Des sycomores aussi, dont le feuillage et les branches marbrées s'allongent et forment voûtes au-dessus de l'eau dormante. Sur la rive sablonneuse, les feuilles forment sous les arbres un tapis épais et si sec que la fuite d'un lézard y éveille un long crépitement. Le soir, les lapins quittant les fourrés viennent s'asseoir sur le sable et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs, les grosses pattes des chiens des ranchs et les sabots fourchus des cerfs qui viennent boire dans l'obscurité. Il y a un sentier à travers les saules et parmi les sycomores, un sentier battu par les enfants qui descendent des ranchs pour se baigner dans l'eau profonde, battu par les vagabonds qui, le soir, descendent de la grande route, fatigués, pour camper sur le bord de l'eau. Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendres attestent les nombreux feux de bivouac. Et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y sont assis. Au soir d'un jour très chaud, une brise légère commençait à frémir dans les feuilles. L'ombre montait vers le haut des collines. Sur les rives sablonneuses, les lapins s'étaient assis, immobiles, comme de petites pierres grises, sculptées. Et puis, du côté de la grande route, un bruit de pas se fit entendre parmi les feuilles sèches des sycomores. Furtivement, les lapins s'enfuirent vers leur gîte. Un héron guindé s'éleva lourdement et survola la rivière de son vol pesant. Toute vie cessa pendant un instant. Puis deux hommes débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clairière, au bord de l'eau verte. Ils avaient descendu le sentier à la file indienne. Et même en terrain découvert, ils restaient l'un derrière l'autre. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalon et veste en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs informes et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couverture. L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini. Des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, entraînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballants à ses côtés. Le premier homme s'arrêta net dans la clairière et son compagnon manqua de lui tomber dessus. Sa situation sur l'étagère, eh bien, sur mon étagère, des souris et des hommes se trouvent entre les livres de John Kalman Stephenson et de Patrick Susskind. Alors, est-ce que Steinbeck aurait apprécié ce voisinage littéraire ? Difficile à dire, puisque ces deux auteurs ont été révélés alors que Steinbeck avait déjà disparu, mais on peut trouver une similitude entre ces trois-là. Ce sont ces questionnements sur l'âme humaine qu'ils ont sondés à travers leurs œuvres. Et si on avait demandé à John Steinbeck de choisir ses voisins de bibliothèque, il aurait sûrement cité en premier Cervantes, qui pour lui était l'inventeur du roman moderne avec son Don Quichotte, sans doute aussi Walt Whitman, qu'il aimait beaucoup et qui avait une proximité avec lui dans la poésie, et encore Jack London et Robert Stevenson, que sa mère institutrice lui fera découvrir. On peut rappeler ici d'ailleurs la conception que Steinbeck avait du rôle de l'écrivain et à travers lui, celui de la littérature. C'est le devoir de l'écrivain d'élever, d'étendre, d'encourager. La grande littérature a été un bâton sur lequel s'appuyer, une mère à consulter, une sagesse pour relever la folie trébuchante, une force contre la faiblesse et un courage pour contrer la lâcheté maladive. Et comment une approche négative et désespérée peut prétendre être de la littérature ? Je ne le comprends pas. John Steinbeck est né en 1902 à Salinas, petite ville de Californie, d'un père d'origine allemande, fonctionnaire, et d'une mère institutrice, d'origine irlandaise. Après quelques années à l'université de Stanford, il revient dans sa région natale où il travaille comme maçon, manœuvre, dans des ranchs, où avec les travaux agricoles il côtoie les travailleurs immigrés, métayers itinérants. C'est là qu'il commencera à écrire. Sa mère aurait voulu pour lui une carrière de banquier, ou au mieux, un écrivain à succès comme Tarkington. Mais qui se souvient de celui-là ? Son père, lui, l'a soutenu et approuvé dans son choix. Il voulait qu'il soit lui-même et admirait quiconque traçait sa voie et la suivait jusqu'au bout, indéfectiblement. Le roman qui le fait connaître au grand public, c'est « Tortilla Flat », publié en 1935, une histoire d'amitié dans un roman ponctué d'humour qui recevra la médaille d'or du meilleur roman écrit par un Californien. Suivront deux autres romans, En un combat douteux, roman sur la grève des ouvriers agricoles et Des souris et des hommes. De récits plus graves, témoignant des conséquences de la Grande Dépression et qui marqueront son empreinte d'auteur engagé auprès des plus démunis. Dans la même veine paraît en 1939 « Les raisins de la colère » qui sera adapté à l'écran par John Ford en 1940. L'histoire est inspirée, elle aussi, de la Grande Dépression, où des fermiers sont expropriés de leurs terres par les banques et migrent vers la Californie en quête de travail. Ce roman, considéré comme son œuvre majeure, sera couronné du prix Pulitzer. Jugé trop âgé pour intégrer les forces américaines pendant la guerre 39-45, il tient à s'engager et sera finalement correspondant de guerre en 1943 pour le compte du New York Herald Tribune en partageant le quotidien des GI basés en Angleterre. Il publiera en 1948 Journal russe, le récit d'un voyage de 40 jours en Union soviétique qu'il réalisera en compagnie de son ami le photographe Robert Capa. En 1952, retour au roman avec À l'Est d'Éden. Histoire adressée à ses deux fils pour leur raconter en termes généraux leurs origines. C'est une reprise du motif biblique de Caïn et Abel, transposé dans la vallée de Salinas. 10 ans plus tard, en 1962, il reçoit le prix Nobel de littérature pour son écriture réaliste et imaginative. On lui doit également des journaux écrits en parallèle de ses romans, « Jour de travail » pour « Les raisins de la colère » et « Les lettres d'À l'Est d'Éden » pour « À l'Est d'Éden ». Concernant ce dernier, le journal est inséré dans les pages des cahiers sur lesquels il écrit le roman, comme une longue lettre qui ne sera adressée à son éditeur et ami Pat Covici qu'au terme du roman. Ces journaux nous éclairent sur son travail d'écrivain, mais aussi sur l'homme. On découvre comment l'écrivain avance, tourne autour de ses personnages, les construit les uns après les autres comme on modèlerait des figurines. On lit les doutes qui l'assaillent, la place d'Hélène, sa troisième épouse, dont il requiert l'avis pour certaines pages d'À l'Est d'Éden. Également, ses insomnies, les cafés qui l'accompagnent, ses soucis avec son taille-crayon électrique, car il écrit au crayon à papier avec des crayons d'une dureté et d'une marque particulière et qu'il achète par lot. On lit sa vive réaction lorsque son éditeur lui demande d'augmenter sa cadence de mots. Un livre, pour lui, est une chose très délicate et il préférerait le mettre de côté pendant un an plutôt que de le gâcher maintenant. On y apprend que lorsqu'il n'écrit pas, il aime travailler le bois, assister aux matchs de baseball et s'adonner de temps en temps à la pêche. Elia Kazan est un de ses proches et il a pu voir chez lui la projection d'un tramway nommé Désir sorti en octobre 1951 qu'il qualifiera de « beau film, vraiment ». Elia Kazan, qui lui est déjà sur les rangs pour l'adaptation d'À l'Est d'Éden alors que le manuscrit n'est pas encore terminé. Et c'est encore avec Elia Kazan que Steinbeck participe en 1952 à la réalisation de son film « Viva Zapata ». Si Steinbeck est un auteur qui dénonce dans ses écrits la misère et l'injustice, il combat également le racisme. Et on peut citer cette phrase tirée de son récit « Voyage avec Charley » paru en 1962. « J'ai vu des enfants noirs, incapables d'apprendre, ceux-là surtout qui, dès leur naissance, ont entendu dire qu'ils étaient des êtres inférieurs. » En dehors de ces thèmes, il s'attaque aussi dans ses écrits à l'industrialisation à outrance et à l'épuisement des terres. Car c'est un écrivain proche de la nature. Il a une approche poétique du paysage, un lien fort avec la nature qu'il a côtoyée dans son enfance dans la vallée de Salinas. Il déteste les milieux mondains, les titres et fuit les interviews. D'ailleurs, sa reconnaissance dans le monde littéraire sera plus tardive que pour ses aînés Fitzgerald, Faulkner ou Hemingway. Les romans de Steinbeck entrent dans la Pléiade en 2023 avec À l'Est d'Éden et ses trois romans autour du thème du travail en un combat douteux, les raisins de la colère et des sourires des hommes. Steinbeck est indéniablement un écrivain de l'humain, de l'individu dans toute sa complexité. Et Arthur Miller dira aussi de lui « Je ne vois aucun autre écrivain américain, à l'exception peut-être de Mark Twain, qui ait pénétré la vie politique du pays de manière aussi profonde. » Et pour continuer, je vous propose d'écouter une chanson de Bruce Springsteen qui lui a été inspirée par Tom Joad, le personnage principal des Raisins de la Colère, chanson extraite de l'album éponyme The Ghost of Tom Joad.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of time travel.
Des souris et des hommes est un roman paru en 1937, roman très court, condensé. À l'origine, l'histoire était un projet à destination des enfants. Dès sa sortie, il suscitera un engouement très fort. C'est un récit simple, à l'écriture de forme classique, très accessible, comme si John Steinbeck souhaitait que cette histoire puisse être lue par les êtres qui sont ses personnages. On est entre le roman et la forme théâtrale du fait de la prépondérance des dialogues, ce qui rend le récit très vivant, d'autant que c'est un parler populaire. Ce langage populaire que l'on découvre dans l'œuvre de Steinbeck et qui a été décrié à la sortie de ses romans. Pour une certaine critique, en effet, ce n'était pas concevable. Qui de mieux que Joseph Kessel pour résumer ce que j'ai également ressenti à la lecture de ce livre dans la préface qu'on lui doit. Ce livre est bref, mais son pouvoir est long. Ce livre est écrit avec rudesse et souvent grossièreté, mais il est nourri de pudeur et d'amour. L'histoire se déroule donc pendant la Grande Dépression, dans la vallée de Salinas, et ses deux héros sont George Milton, homme plutôt petit, et Lenny Small, un doux colosse à la force herculéenne. Tous deux sont des travailleurs agricoles qui vont de ranch en ranch pour effectuer des travaux saisonniers avec le projet de réaliser leur rêve commun, acheter une ferme et un lopin de terre qu'ils pourront travailler, où ils pourront élever des animaux, notamment des lapins, les animaux que Lenny adore caresser. Dès les premières pages du livre, on sent que le drame sera imminent. George et Lenny forment un couple bouleversant, un duo lié par une amitié indéfectible, thème assez peu décrit dans la littérature. Si Steinbeck met en lumière dans ce roman des oubliés du rêve américain, il nous montre aussi en quoi l'humain éprouve parfois le besoin de détruire ce qu'il aime. Avec des souris et des hommes, on pense à Faulkner. Avec le bruit et la fureur pour le personnage de Benji, proche de celui de Lenny. Mais on pense aussi à Beckett pour l'attente dans le récit. Dans ses manuscrits, on a découvert que Steinbeck faisait très peu de ratures, sans aucune annotation dans les marges. Et pour l'anecdote, son chiot avait détruit une partie du manuscrit des souris et des hommes. Il a donc dû le réécrire, tout comme il avait dû réécrire son roman « Le poney rouge », dont le manuscrit avait été égaré. Quand il retrouvera le manuscrit original, lors d'un déménagement des années plus tard, il observera que seulement 7 mots différaient des 2 versions. Des souris et des hommes, Of Mice and Men, a été adapté pour la première fois à l'écran par Lewis Millstone en 1939. Le film, interprété par Lon Chaney Jr. pour Lenny et Burgess Meredith pour George, a obtenu une nomination aux Oscars en 1940 pour le titre de meilleur film. Alors si je vous invite vivement à découvrir ou redécouvrir cette œuvre, je conseillerais aux adolescents qui sont davantage attirés par la BD de lire « Des souris et des hommes » dans la belle édition illustrée par Rebecca D'Outremer et qui est parue en 2020. Comment j'ai découvert ce livre? Eh bien, comme je le disais en introduction, je l'ai découvert à l'adolescence, alors que j'étais en classe de première. Alors, est-ce que je dois la lecture de ce roman au programme scolaire des cours de français de première à l'époque? Sans doute, et en même temps, j'ai envie de croire que je dois aussi cette découverte à ce professeur de français que j'ai eu la chance d'avoir en la personne de Monsieur Gounel, car mes premières grandes découvertes dans la littérature et le théâtre, c'est à lui que je les dois essentiellement. Ses œuvres, qui vous scotchent à l'adolescence, vous clouent dans votre lit, happé que vous êtes par votre lecture, resteront des ouvertures, des nourritures incomparables, sorte de sublimation qui engendre émerveillement et réflexion profonde. Et ces moments, vous souhaiterez plus tard les retrouver encore et encore au fil de votre vie. Alors, pour revenir à Des souris et des hommes, je l'ai lu dans sa version folio poche et ce fut le premier pas dans l'œuvre de Steinbeck. Jusqu'à il y a peu encore où je n'ai pas lu mais découvert ce magnifique film d'Elia Kazan à l'Est d'Éden avec James Dean mais aussi la magnifique Julie Harris. Découvrons à présent un deuxième extrait du roman lu par Antoine, alors que Georges et Lenny sont sur la route, la veille d'arriver au ranch où ils sont embauchés.
Lenny supplia. « Allons, Georges, raconte-moi, je t'en prie, Georges. Comment t'as fait d'autrefois ? Ça te plaît donc bien ? C'est bon, je vais te raconter et puis après on dînera. » La voix de Georges se fit plus grave. Il répétait ces mots sur un certain rythme, comme s'il avait déjà dit cela plusieurs fois. « Les types comme nous qui travaillent dans les ranchs, il n'y a pas plus seul au monde. Ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de chez soi. Ils vont dans un ranch, ils y font un peu d'argent et puis ils vont en ville et ils le dépensent tout. Et pas plus tôt fini, les v'là asséchinés dans un autre ranch. Ils n'ont pas de futur devant eux. » Lenny était ravi. « C'est ça! C'est ça maintenant, raconte comment c'est pour nous. » Georges continua. « Pour nous, c'est pas comme ça. Nous, on a un futur. On a quelqu'un à qui parler, qui s'intéresse à nous. On n'a pas besoin de s'asseoir dans un bar pour dépenser son pèse, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Si les autres types vont en prison, ils peuvent bien y crever. Tout le monde s'en fout, mais pas nous. » Lenny intervint. « Mais pas nous. Et pourquoi ? Parce que moi, j'ai toi pour t'occuper de moi et toi, t'as moi pour m'occuper de toi et c'est pour ça. » Il éclata d'un rire nerveux. « Continue maintenant, Georges. Tu le sais par cœur. Tu peux le faire toi-même. Non, toi, il y a toujours des choses que j'oublie. Dis-moi comment que ça sera. » « Ben voilà. Un jour, on réunira tout notre pèse. » Et on aura une petite maison et 1 ou 2 hectares et une vache et des cochons et... On vivra comme des rentiers, hurla Lenny. Et on aura des lapins. Continue, Georges. Dis-moi ce qu'on aura dans le jardin et les lapins dans les cages et la pluie en hiver et le poêle et la crème sur le lait qui sera si épaisse qu'on pourra à peine la couper. Raconte-moi tout ça, Georges. Pourquoi que tu le fais pas toi-même ? Tu le sais tout. Non, raconte-toi. C'est pas la même chose si c'est moi qui le fais. Continue, Georges. Comment je soignerai les lapins ? Eh bien, dit Georges, on aura un grand potager et un clapier à lapins et des poulets. Et quand il pleuvra l'hiver, on dira « Le travail, on s'en fout !» Et on allumera du feu dans le poêle et on s'assoira autour et on écoutera la pluie tomber sur le toit. Merde !
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes chances, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas s'y penser. Je n'ai pas d'ami comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'ami comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Thank you. crois, j'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Ne te lasse pas de moi. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
Résonance. Le livre qui résonne pour moi avec des souris et des hommes est un roman que John Steinbeck n'aurait pas pu lire puisqu'il est paru en 2000 chez De Noël. Ce roman, c'est Les Demeurés de Jeanne Benhamer qui a reçu le prix UNICEF en 2001. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amitié indéfectible, mais plutôt l'histoire d'un amour fusionnel entre une mère et sa fille, toutes deux vivant dans une masure en marge d'un village et que l'on appelle communément les demeurés. Il n'y a pas de mots entre ces deux-là et leur relation passe par le langage des corps. Pas de rêve de ferme à venir comme pour Georges et Lénie, car le bonheur semble se conjuguer au présent avec cette vie faite de rien et la relation forte entre Luce et sa mère, la Varienne. Jusqu'au jour où la petite Luce doit faire son entrée à l'école et l'arrivée dans leur vie de l'institutrice, Mademoiselle Solange, bien décidée à mettre des mots dans l'univers de cet enfant. Les Demeurés, c'est un récit court et percutant également, mais dont l'écriture, si elle est très épurée, est plus complexe. Contrairement à Steinbeck, Jeanne Benhamer nous livre les sensations, les pensées de ses personnages. Et pourtant, ces deux livres ont une proximité pour moi. Bien sûr, le thème de la différence, de la déficience intellectuelle, unit à une relation inaltérable entre les deux héros qui sont au cœur de l'histoire. Mais il y a aussi la simplicité de ces héros et la mise au ban de la société plus ou moins sous-jacente. Je vous propose donc un extrait des Demeurés avec les questionnements de l'institutrice après les premiers jours d'école de la petite Luce. Mademoiselle Solange ne comprend rien. Comment une petite fille si sage peut-elle rester à ce point ignorante? Mademoiselle Solange a voué sa vie à combattre les préjugés des esprits courts, telle mère, telle fille. La petite pose une énigme qu'elle ne résout pas. Devant les autres, elle ne l'interroge plus, pensant que les rires à peine étouffés de ses condisciples la condamnent d'avance au silence. Elle attend la fin de la journée. Quand la petite a fini de ranger ses affaires, toujours après les autres, tant sa lenteur face aux objets est tenace, renouvelée, elle s'approche doucement et lui parle. Mais l'enfant entame sa marche vers la grille de l'école. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est un pari difficile de la retenir, un peu à la porte de la classe, puis de lui faire ralentir le pas dans la cour où des enfants bruyants se poursuivent encore. Mademoiselle Solange l'escorte jusqu'à la rue et marche près d'elle. Pourtant, elle sent l'impatience dans les jambes de la fillette dès la porte de la classe passée. Vers quoi veut-elle aller si vite? La petite répond à voix basse aux questions de l'institutrice. Oui, elle demandera si elle ne comprend pas. Oui, elle essaiera d'apprendre ses leçons. Oui, oui, et oui. Qu'on la laisse partir, qu'on la laisse partir, c'est tout ce que disent les pieds qui martèlent le sol. L'institutrice la regarde se hâter sur le chemin, referme la grille lentement, désemparée face à quelque chose qu'elle sent immense, à quoi elle n'a pas accès. Elle rentre en serrant son châle sur ses épaules. Sur son front, le souci. Les gestes de Mademoiselle Solange quand elle ramasse les cahiers sur les pupitres ont alors l'engourdissement de qui ne comprend pas. Une citation de John Steinbeck, extraite de son journal en 1938. Essayez de vous comprendre les uns les autres. On ne peut haïr les hommes une fois qu'on les connaît. L'agroforesterie sous toutes ses formes. Je vous avais promis de reparler d'agroforesterie, alors voilà. Rappelons tout d'abord que l'agroforesterie, c'est l'association de l'arbre aux cultures ou à l'élevage sous ses formes les plus diverses, haies, alignement intraparcellaire, bosquets, vergers ou jardins-forêts. L'agroforesterie, c'est l'un des meilleurs dispositifs pour sauvegarder les écosystèmes, pour l'eau, les sols, le stockage de carbone et la biodiversité végétale et animale. Nous avions évoqué dans un précédent podcast la disparition au fil des années des haies bocagères et les initiatives visant aujourd'hui à inverser ce processus. Alors, ajoutons l'initiative du WWF qui organise une collecte en ligne avec un objectif de 100 000 euros afin de planter 1000 arbres avec des éleveurs et des céréaliers, des plantations de haies basées dans l'ouest de la France. Autre forme d'agroforesterie donc, les forêts comestibles, avec des jardins-forêts qui peuvent regrouper jusqu'à 300 espèces de plantes nourricières sur différents étages de plantation. Ces espèces sont bien sûr adaptées aux régions concernées. On pourra y trouver des arbres produisant de petits fruits, des fruits à coque, mais aussi des pommiers, des pêchers, des arbres médicinaux, des arbres nectarifères et encore des arbres fourragés pour la nourriture des animaux, et puis plus bas, des plantes sauvages, domestiques, potagères ou aromatiques. Certaines associations comme Danube, dans le Calvados, accompagnent des particuliers et des communes dans la plantation de jardins-forêts. Et ça marche. La preuve en est que cette association a créé deux nouvelles antennes, une dans la Manche et une autre en Mayenne. Mentionnons aussi la particularité de Danube, qui met en lumière l'obligation réelle environnementale, l'or ORE, un dispositif existant depuis 2016, peu connu, mais qui permet de protéger un espace privé, comme un jardin-forêt, avec un contrat chez le notaire et qui peut durer jusqu'à 99 ans. De quoi assurer, après vous, la sauvegarde de ces espaces nourriciers. À bon entendeur, salut. Je vous souhaite un été au milieu des feuilles, celles de vos arbres préférés, mais aussi celles de vos lectures, ces lectures qui vous apporteront une sagesse pour relever la folie trébuchante, comme le disait si bien Steinbeck. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous en octobre pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.